Votre spectacle Les Voix de l'amour est autour de la poésie de Rumi et Kabir, mise en scène de Jocelyne Fontine et Lise Thur, avec Corinne Henry, chanteuse, comédienne, Philippe Henry, musicien, violoncelle, percussion, bol tibétain, création musicale Philippe Henry, décor manuscrit et galet Chantal Pierre. Votre spectacle met en lumière la poésie de deux grands poètes, Rumi, poète soufi du XIIIe siècle, et Kabir, mystique indien du XVe siècle, qui a beaucoup influencé Rabindranath Tagore. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, il s'agit de la première création personnelle de la compagnie que j'ai créée en 2004, justement pour développer des projets de création qui me sont chers. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est un projet qui tend à exprimer la dimension de la spiritualité dans l'expression artistique. Dans ce que je faisais de purement musical, je dirais, voilà, cette dimension est présente, mais elle n'est pas dite, elle n'est pas exprimée par des mots. Donc j'ai cherché dans la poésie des supports, des modes d'expression. Et ce qui a répondu le plus fortement, c'est cette poésie de Rumi et de Kabir, qui sont deux mystiques, deux électrons libres, on peut dire, qui ont donc une forte... dimension artistique dans leur expression du mystique.
Parce que vous parlez de artistique dans le sens que Rumi est à l'origine des derviches tourneurs aussi.
Oui, Rumi donc est un mystique. Et il est le créateur de l'ordre des derviches tourneurs. Et en fait, tout son art est fait pour exprimer la spiritualité de trois manières: la musique, la danse et la poésie. Son œuvre est très importante.
Et Kabir, qui est le mystique indien aussi, donc on retrouve cette spiritualité dans ses écrits. Alors l'œuvre poétique de Rumi ou celle de Kabir est importante. Comment avez-vous procédé dans le choix des textes ?
Le choix des textes. Alors en fait, le concept du spectacle, il est construit comme une expérience méditative. Qu'est-ce qui se passe dans une bonne méditation? On traverse quatre états, c'est un peu réducteur, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je connais de la méditation. Il y a un premier état qu'on peut appeler une phase d'introspection, voilà, où on se tourne vers l'intérieur. Une seconde étape où on rencontre notre condition, et là, ça peut être plus ou moins difficile, hein, on peut dire une rencontre de l'ombre. La troisième étape, c'est de traverser cette ombre et d'arriver dans un espace de paix, de douceur. Et la quatrième étape, qui est un état transcendant que les hindous appellent le samadhi et les japonais le nirvana. Donc, connaissant, ayant défini, repéré ces quatre conditions, nous avons cherché des textes qui expriment ces quatre états. Et nous les avons donc collectés d'abord, dans un premier temps, simplement sans trop réfléchir au spectacle lui-même. Et dans un deuxième temps, il y a eu un travail d'élagage, de choix, de tri, ce qui a été long et difficile, parce que ce sont à chaque fois des perles, des merveilles, ces poèmes. Mais il a fallu quand même laisser de la place à la fois au silence et à la musique. Donc voilà, organiser cette lecture de texte et lui donner un sens par la mise en scène.
Alors comment se déroule le spectacle, tant sur le plan de la mise en scène, du décor ou même de l'éclairage ?
Alors Philippe me passe la parole. En fait,
là c'est Lise Thur qui parle.
Oui, voilà, c'est Lise Thur. Non, je reprends juste dans l'historique comment je suis arrivée sur ce spectacle. En fait, Corinne et Philippe sont venus me voir pour me demander si je pouvais reprendre ce travail un petit peu de mise en scène qui n'était pas à l'époque abouti comme ils le souhaitaient apparemment. Donc j'ai tout de suite été partante sur ce projet, d'autant qu'il me paraît très important de nos jours qu'une certaine spiritualité laïque descende dans la rue, se pose sur les scènes de théâtre. Ça me semble d'autant plus important qu'on a vraiment besoin d'apaisement dans ce monde qui perd un peu son sens. Voilà, ça c'était pour moi aussi pourquoi j'ai dit oui. Et donc quand je suis arrivée, après cette première mouture de spectacle, où la précédente metteuse en scène avait donné sa couleur, je suis entrée dans ce chemin-là et au fur et à mesure des répétitions, des lectures, eh ben, j'ai forcément amené mes propres couleurs. Donc en fait, ce que j'ai proposé aux deux comédiens, Corinne et Philippe, musiciens, c'est un peu plus de corps, d'autres itinéraires sur le plateau, un peu plus de fluidité dans le décor, un peu plus de sobriété. Enfin voilà, ça ce sont mes couleurs, etc. Donc c'est très simple. Il y a un éclairage très doux tout le long du spectacle. Il n'y a pas besoin d'effet de lumière particulier. La présence des deux acteurs musiciens suffit largement. Le décor est constitué de trois grands panneaux, dont deux représentent une sorte de paysage qui est suffisamment ouvert et doux pour permettre la rêverie du public et même des gens qui sont sur scène, bien sûr. Et le troisième, qui est de mon fait, c'est un panneau un peu constitué de voiles très très légers qui permettent un passage. Alors passage de l'intérieur vers l'extérieur, d'une pièce à l'autre, si on veut faire cette lecture-là, et aussi d'un état à l'autre. Et en fait, j'avais vraiment envie de quelque chose d'aérien qui soit en relation avec le souffle et en cohérence avec les textes tels que je les ressentais. Voilà un peu ce que je peux dire sur la mise en scène. Voilà.
Philippe Henry, vous avez composé et interprété une musique spécialement pour ce spectacle. Votre musique, je pense, s'inspire de la musique orientale.
Tout à fait. On peut dire que cette poésie mystique elle tend à exprimer quelque chose d'indicible. Donc j'ai cherché, par la musique, à révéler des aspects subtils, c'est-à-dire quelque chose qui se tient entre le silence, le timbre, et notamment dans la dimension acoustique du timbre, qui est le son se décompose en une fondamentale, et puis des harmoniques, c'est-à-dire des sons qui sont cachés derrière cette fondamentale. Et donc, par exemple, les bols tibétains font apparaître toute une gamme d'harmoniques qu'on retrouve également sur les cordes du violoncelle. Donc il y a tout un jeu aussi avec l'archet, en partant donc du souffle de l'archet sur la corde. Donc il y a très très peu de son, et puis en allant vers le timbre, donc en faisant apparaître et disparaître ces sonorités. La création musicale s'est passée en deux temps, une première phase d'improvisation sur les textes et un deuxième temps d'écriture, de composition pour ce qui concerne la voix, le chant, qui fait appel donc à un travail d'écriture, par exemple sur un poème de Rumi, et puis pour la voix lyrique, voilà, ça méritait un traitement plus approfondi dans l'écriture.
Corinne Henry, comment avez-vous abordé les chants ?
Alors il y a déjà deux choses que je voulais signaler avant peut-être de parler des chants. L'aspect comédie, le fait de dire les textes. Comme Philippe le disait, on a fait un gros travail de choix, hein, de ces textes-là. Et c'est vrai que au niveau de l'expression, il a fallu véritablement plonger en moi pour tenter de sentir, de comprendre ce qui est déjà très présomptueux, essayer de comprendre tous les vers et les sens de Rumi et Kabir, car chaque vers, chaque sens retient ses mystères cachés, et il faudrait certainement plus d'une vie pour arriver à comprendre ce qu'il est dit. Ces textes étant d'une densité incroyable, il a fallu un gros travail d'épuration, d'authenticité, de justesse, hein, entre ce que je pouvais ressentir à la lecture de ces textes et puis comment les interpréter. On a fait le choix d'une interprétation possible en sachant qu'il y a une vision infinie possible à travers ces textes. Donc un gros travail d'humilité. Et puis aussi un gros travail de réflexion sur le sens de la vie, le sens que chacun donne à sa vie, en sachant que dans la tradition soufie, la poésie Et l'aspect des choses mystiques sont mêlés en tant que ode de l'infini vers la divinité. Et ceci par une transmutation allégorique de l'humain et de ses désirs. Alors, Rumi a toujours dit que c'était très important pour lui, il l'a rappelé à ses disciples, qu'il ne s'agissait pas du plan humain, mais bien des amours mystiques de l'âme en quête de son bien-aimé. Donc, en sachant cela, voilà, comment retranscrire, comment jouer, comment passer à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur d'émotions humaines. Donc, ça a été ce gros travail en partenariat avec Lise.
C'est pour ça que, dans l'émission que j'ai consacrée à Rumi, j'appelle « Poème d'amour mystique ».
Tout à fait, absolument. Ouais.
Alors, nous allons parler de ces chants. Donc, comment vous les avez abordés ?
Voilà, donc les chants, donc, ça a été aussi un travail étroit avec Philippe. Dans ce spectacle, il y a trois chants principaux qui ont été orientés en fonction des différents tableaux dont Philippe a parlé tout à l'heure. Il y a un chant qui s'appelle Devona Chao. Ce chant-là, il vient du Tadjikistan. Et c'est un chant qui est chanté dans la langue qui est la plus proche, très certainement, de ce que pouvait entendre Rumi à son époque. Donc voilà, il était pertinent, intéressant de choisir ce chant-là par rapport à la langue, par rapport à la musicalité de la langue. Il y a un autre chant qui s'appelle « L'hiver est fou ». Ce chant-là, donc, c'est un chant qui a été écrit sur un poème de Rumi, qui est chanté en français, celui-là. Et il a été interprété, je dirais, il est interprété, inspiré de Marie Kérouz avec une partie improvisation. Il vient donc traduire le tourment, la rencontre de l'ombre, en sachant que les soufis et les spirituels se sont attachés à élaborer des musiques qui sont totalement en accord avec les états intérieurs. Donc c'était aussi un défi très, très intéressant d'arriver à exprimer ces états intérieurs. Et puis le troisième chant, c'est un... Alors celui-là est en duo, on l'interprète avec Philippe, et ce sont des chants harmoniques, ce sont des improvisations, tout à la fin du spectacle, des chants harmoniques pour aller vers justement cet état d'unité que l'on peut rencontrer à la fin d'une méditation. Donc tout ça avec des façons différentes de poser sa voix, le Devona Chao où la voix est plus de poitrine, L'hiver est fou, la voix est plus orientée vers, je dirais, vers la voix lyrique. Et les chants harmoniques, là, on est vraiment dans un travail sur les harmoniques, en sachant que l'instrument de musique idéal, selon les musicologues, est la voix humaine. Car même si son registre est moins étendu que beaucoup d'instruments, elle est celle qui est la plus riche en harmoniques, c'est-à-dire qu'elle peut contenir tous les sons de l'univers. Donc, elle est reliée à tous les êtres et à tout l'univers en entier. Voilà, donc c'est énorme, tout simplement énorme. Et je suis très enchantée, vraiment très fière d'être dans ce spectacle-là.
Alors, vous avez déjà donné de nombreuses représentations. Votre prochain rendez-vous ?
Alors, je reprends la parole. Le prochain rendez-vous, ce sera le dimanche 22 janvier à Pignan. Dans la salle privée chez soi. En fait, c'est chez moi. Donc, nous pensons proposer le spectacle à 18h. C'est un horaire en général sympathique pendant l'hiver. Le nombre de places est très limité puisque c'est une salle privée. Donc, il faudra évidemment réserver impérativement pour pouvoir assister à cette représentation-là. Voilà. Et puis, nous avons des projets futurs, mais pour l'instant, les dates sont en instance de confirmation, donc je ne vais pas en parler. Voilà.
Donc, votre spectacle est autour de la poésie de Rumi et Kabir, et il s'appelle « Les voies de l'amour ». Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Merci, au revoir. Tiens.